Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Dans cet épisode, nous recevons à notre micro Lola. Elle a 26 ans et comme beaucoup de personnes, ses parents sont divorcés. Elle témoigne aujourd'hui du souvenir douloureux que fut le divorce de ses parents et des années de va-et-vient qui en ont découlé. Puis, Maître Cano, avocat spécialisé en droit de la famille, nous explique quelles sont les lois qui encadrent le droit des enfants lors d'un divorce et les recours auxquels ils peuvent faire appel. Bienvenue Lola, merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu peux me dire si tu as des souvenirs de tes parents avant le divorce ?
J'ai de nets souvenirs du divorce en lui-même, de quelque chose d'ultra violent avec beaucoup de disputes, etc. Mais j'ai très, voire pas du tout de souvenirs d'avant.
T'étais très jeune.
J'étais très jeune, vu que mes parents sont séparés. J'avais tout juste 6-7 ans. Donc en effet, j'étais ultra jeune et puis je pense que mon cerveau a fait un petit blackout à ce niveau-là.
Ouais.
Du coup, ouais, j'ai vraiment de très bons souvenirs de la séparation et du après, mais du avant, c'est très flou.
Ouais. Mais je crois savoir que, du coup, oui, le divorce t'a particulièrement marqué. Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur cette période ? Tu dis violent, mais comment tu le ressens encore aujourd'hui ?
Avec du recul, je me rends compte, déjà, j'en ai jamais voulu à mes parents de s'être séparés. Je pense que c'était la meilleure décision qu'ils aient prise, parce que c'était des adultes qui ne s'entendaient pas du tout, qui étaient différents à tous les points de vue, et qui sont toujours aussi différents d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça ultra violent, parce que je pense qu'à 7 ans, j'ai pas bien compris le fait qu'on allait plus retrouver tous les quatre ensemble, vu que j'avais ma petite sœur avec moi. Et je me rappelle de disputes ultra violentes. Et puis, c'est directement parti en conflit. Mon père n'a jamais supporté le fait que ma mère soit partie. Et du coup, il nous l'a fait payer pendant très longtemps. Et il lui a fait payer pendant très longtemps. Et du coup, je me souviens de disputes, enfin, de choses vraiment, vraiment très violentes, que ce soit dans les mots ou dans les gestes. Enfin, cette partie-là a été très difficile pour moi, 7 ans,
ouais.
Et très sensible.
Tu as quand même en fait, des souvenirs de cette période, mais vraiment ton cerveau a sélectionné.
C'est ça, et je peux avoir des souvenirs ultra pointus, c'est-à-dire même le jour, je sais que c'était un jeudi. Je peux avoir des souvenirs ultra pointus sur certaines choses qui m'ont vraiment marqué, moi en tant qu'enfant, et autant des choses ultra floues comme mes 7 ans avant la séparation. Du coup. Ouais.
Et comment tes parents te l'ont annoncé ? Comment ça s'est passé, l'annonce ? Est-ce déjà t'en ont parlé ou...
J'ai la chance d'avoir une maman qui est très à l'écoute et qui a toujours pris le temps de nous expliquer absolument tout. Voilà, elle a toujours pensé que les enfants pouvaient tout comprendre et qu'à 7 ans, je pouvais très bien comprendre que mon papa et ma maman ne s'aimaient plus et qu'ils allaient se séparer. Donc, je me souviens pas exactement du jour même où ils me l'ont dit. Je me souviens que ça a été dit, en tout cas. Ça me faisait pas tellement peur parce que je crois qu'autour de moi, j'avais beaucoup de copains. À l'époque, ça se faisait bien. Enfin, ça se faisait d'avoir des parents séparés. Et même, je crois bien qu'au début, j'ai trouvé le côté un peu positif d'avoir deux maisons, deux fois plus de cadeaux. Enfin, ce qu'on imagine
oui,
à 7
sûr.
Ans, à la hauteur de 7 ans, on n'imaginait pas toute la complexité que ça allait être par la suite, en fait.
Ouais. Et pour toi, est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire, de l'annoncer ? Est-ce qu'avec le recul, tu te dis, ça a été fait de la bonne façon ? Ou si tu devais... regarder ça d'un œil un peu extérieur. Est-ce que pour toi, il y a une bonne manière de l'annoncer ?
Je pense pas que ça a été mal fait. Je pense que ça a été très bien fait de parler et de dire à l'enfant avec des mots simples « Papa, maman ne s'aiment plus ». Enfin, c'est pas grave. Ce qui a été plus compliqué après, c'est qu'on n'a pas compris que c'était pas de notre faute. Et en fait, vu qu'on nous l'a fait payer pendant très longtemps, surtout du côté de mon papa, vu qu'on nous l'a fait payer, ça c'est pas possible.
Et
on
peut
pas
culpabiliser.
Exactement. Et puis après, on avait peur de blesser ou maman ou papa par rapport aux mots qu'on allait dire, aux choix qu'on allait faire. Enfin, c'était très compliqué. En fait, j'ai l'impression que j'ai marché sur des œufs pendant 13 ans de ma vie.
Oui.
J'ai vraiment cette impression-là où j'ai dû faire attention à tout le monde pour ne blesser personne parce que c'était en conflit, il n'y avait rien d'apaisé pendant 13 ans.
Oui.
Et encore maintenant, j'en suis sûre qu'il n'y a rien d'apaisé de son côté non plus.
Et t'as l'impression d'avoir porté en final sur tes épaules le poids de cette séparation.
Encore une fois, je regrette pas du tout la séparation. Ce que je regrette, c'est ce conflit. En fait, j'admire les parents qui restent amis. Alors, c'est pas ce qu'il faut dire parce que c'est pas tellement ami le terme, mais qui restent en bon contact pour les enfants, en fait. Et je pense que ça, c'est ultra important. On peut ne plus s'aimer, mais on a fait des enfants et les enfants n'ont rien à voir là-dedans et ils n'ont pas à subir. Ouais, ouais. C'est voilà.
Ta petite sœur, elle était encore toute petite. Aujourd'hui, quel est son regard sur cette période? Est-ce qu'elle en a des souvenirs ou pas du tout? Est-ce qu'elle en a grâce ou à cause de ce qu'elle a pu entendre? Comment ça se passe?
Je l'ai eu au téléphone récemment et on en a discuté un petit peu. Moi, de ce que je me souviens, Marie était toute petite, du coup, elle avait tout juste 3 ans. Je me souviens qu'elle se posait pas trop de questions, c'était un enfant très joyeux et du coup, elle riait beaucoup. Je pense qu'elle a jamais bien compris le fait que papa et maman se séparent. Après, c'était très compliqué par la suite parce que les premiers temps, la garde alternée a été un petit peu floue, on va dire. Il faisait pas une semaine, c'était genre lundi, mardi chez maman, mercredi, vendredi chez papa. Enfin, c'était très compliqué et pour elle, en tant que enfant, tout petit, elle avait beaucoup de mal avec ça, surtout qu'elle était très attachée à ma mère. Ma mère a toujours été l'adulte référent, en tout cas pour nous, pour nous rassurer, etc. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour elle d'être séparée de ma maman. Et moi, je me suis fait une promesse, c'est de la protéger pendant tout ce temps-là. Et je me souviens de... Enfin, même encore maintenant, il peut m'arriver de rêver du fait de protéger ma sœur à outrance, comme si c'était une petite être fragile et qu'il fallait que je la prenne sous mon aile. J'avais cette mission, je m'étais auto-mis cette mission de protéger ma petite sœur au maximum.
Très vite s'est imposé du coup le choix d'une garde alternée. Comment toi tu l'as vécu? Parce que j'imagine du coup que c'était pas forcément par votre choix, qu'on vous a pas consulté. Comment ça s'est passé?
Alors là, il faut se replonger un peu en arrière. On est dans les années fin 1990-2000. Et à l'époque, on ne demandait pas aux enfants si on voulait aller soit chez maman, soit chez papa. En fait, j'ai toujours vécu ça comme une injustice. Et en même temps, j'avais tellement peur de mon père que c'était inconcevable que je dise à mon père « Papa, je veux plus aller chez toi ».
Ouais.
Ça a toujours été quelqu'un de très violent, surtout dans ses mots, et de très envahissant, voilà, enfin c'était ultra compliqué et du coup j'ai toujours eu très peur de mon papa et du coup pendant 13 ans je vais vivre une semaine sur deux avec cette peur là. Donc comme je te disais au début c'était la garde alternée un peu bizarroïde, voilà, et puis au bout d'un moment mes parents se sont rendus compte que ma petite sœur le vivait mal parce que tous les matins elle ne savait pas qui la réveillait. Elle demandait constamment à ma mère mais demain c'est qui vient me chercher à l'école? Elle comprenait pas tellement ce système et moi non plus à vrai dire, et du coup au bout de 2 ans de séparation ils ont décidé de faire une garde alternée une semaine ainsi que un mois pour les grandes vacances. Donc il faut imaginer une toute petite fille, vu que Marie avait tout juste 5 ans, séparée de 1 mois de sa maman, surtout que mon père a limité les appels, sûrement pour faire payer à ma mère le fait d'être partie et pour nous faire payer le fait d'être aussi attachée à ma mère. Et du coup, c'était très compliqué parce qu'on était, il y avait cette séparation tout le temps.
Ouais, et le manque de contact, ouais. La privation en fait.
Complet. Et puis pour revenir sur la séparation, sur cette garde alternée, au tout début de la séparation, mon père a demandé la garde exclusive car il était prof et du coup il avait des horaires beaucoup plus aménagés pour des enfants, sachant que ma mère était infirmière, avait des horaires beaucoup plus décalés. Il faisait ça évidemment pour le faire payer à ma mère, sachant qu'il nous avait jamais vraiment gardé. C'était quelqu'un qui était très très centré sur lui-même et du coup il nous avait jamais vraiment gardé seul et était pas très apte à faire ça en tout cas. Et donc ma mère a dû prouver, donc ça se faisait comme ça à l'époque en tout cas, elle a dû prouver avec des témoignages qu'elle était une bonne mère devant un juge. Donc elle a dû recueillir le témoignage de ses copines, de directrices de crèche par exemple, pour faire entendre au juge qu'elle pouvait garder ses filles. Et c'est comme ça qu'est venue une semaine, mais voilà, ça a été assez conflictuel. Quand je parle de conflit, c'était vraiment dans le conflit dès le début.
Ouais. D'accord. J'imagine que pour toi, d'avoir des différences éducatives d'une semaine à l'autre, comme ça, c'était très marquant, surtout pour ta petite sœur.
Alors, ça a été très difficile. Encore une fois, on parle d'un père qui était vraiment très compliqué, exclusif. Je pense que mon père a toujours voulu avoir des garçons, alors il nous a toujours habillés en garçons. Moi, je rentrais pratiquement au collège au bout d'un moment et j'étais toujours habillée en garçon. Alors, il faut imaginer les années collège où si t'es pas à la mode, t'es un peu rejetée, surtout que je suis quelqu'un de très sensible. Alors, de base, j'ai des prédispositions à être assez rejetée. Et je me rappelle, et donc, on avait les vêtements chez mon père, les vêtements chez ma mère. On trimballait notre valise toutes les semaines. Et en fait, j'en discutais avec Marie au téléphone où elle me disait qu'en fait, pendant 13 ans, elle n'a pas su qui elle était vraiment, vu qu'il y avait une sorte de double personnalité. Ma mère étant un peu plus laxiste aussi, très à l'écoute. Et voilà, c'est complètement autre chose. Enfin, une autre sorte d'éducation. Mon père étant très dur, il y avait des horaires à respecter pour la mise de table, pour se laver, etc. C'était très cadré, etc. Et du coup, c'est vrai que quand on est arrivé à 18 ans et on a dû voler de notre propre aile, on n'avait plus nos parents autour de nous. Pour Pour Marie, c'était très difficile. Elle a encore beaucoup de mal à faire des choix toute seule et elle a eu beaucoup de mal à se construire. Je dois avouer que pour moi aussi, je commence tout juste à savoir qui je suis. Je pense clairement que ça vient de là et qu'ils se sont pas du tout mis d'accord sur le type d'éducation qu'ils allaient donner à leur fille. Et puis voilà, il y avait un côté... Enfin, en fait, c'était les deux opposés. Ouais. Clairement, et encore aujourd'hui, je sais pas comment ils ont fait pour avoir deux filles ensemble, ils sont tellement différents.
Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait être mis en place par les institutions justement pour protéger les enfants comme ça lors de séparation, puisque de ce que tu me dis, vous n'étiez pas écoutés du tout. Qu'est-ce qui pour toi serait judicieux, voilà, de proposer aux familles?
Alors en effet, comme je t'ai dit, dans les années 2000, on demandait pas du tout à l'enfant. Maintenant, j'ai entendu dire que l'enfant était plus écouté, et ça, je pense que c'est ultra important. En effet, c'est très compliqué de dire à quelqu'un « je ne veux plus voir mon père » ou « je ne veux plus voir ma mère » parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de blesser. Mais je me suis sentie en danger, clairement en danger pendant toute cette période-là avec ce papa autoritaire et violent. J'en ai voulu, je pense qu'inconsciemment j'en ai voulu à ma mère de ne pas m'avoir aidée là-dedans. Mais encore une fois, j'étais démunie et encore aujourd'hui, je ne me vois pas. Si j'essaie de me replonger moi à 7 ans, je ne me vois pas dire « papa, je ne veux plus te voir » où je veux te voir que pendant un week-end sur deux, quoi. C'était inenvisageable à ce moment-là. Voilà, je pense qu'il faut juste écouter l'enfant, se mettre à sa hauteur et dire, et essayer de comprendre ce qui sera le mieux pour lui.
Et au niveau de la justice, des intervenants extérieurs, est-ce que tu penses que ce serait pertinent qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit mis en place, un médiateur, je sais pas, parce que toi, tu n'as pas eu l'impression d'avoir été écouté du tout ou...
Non, en effet, et puis en plus, comme tu parles de médiation, il n'y a pas eu du tout de médiation entre mon père et ma mère. En fait, on était les médiateurs, toutes les deux, on a été les hiboux. Concrètement, vu qu'ils ne se sont pas parlé pendant pratiquement 13 ans, on a été les messagers de mon père et de ma mère, donc c'est très dur à porter. Et donc en effet, peut-être qu'un médiateur est important. En tout cas, pourquoi pas aussi une personne qui va aider la famille au grand complet, que ça soit psychologue, voilà. Après, je parle de mon expérience. Heureusement, il y a des séparations qui se passent très bien, les enfants le vivent très bien et les parents ont très bien géré la chose. C'est pas grave de se séparer, ce qui est grave, c'est en faire payer aux enfants. Et qu'en effet, il n'y ait pas ce suivi-là et cette protection-là. Je ne me suis pas sentie protégée.
Ouais. Avec le recul, est-ce que ton vécu, alors en tant qu'enfant un peu valise, c'est-à-dire que tu as l'impression un peu d'être trimballé de l'un à l'autre, est-ce que ça t'a impacté dans ta scolarité, dans ta construction en tant qu'adolescente? Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu te rends compte que, bon, tu nous l'as un peu expliqué déjà, mais que ça a eu un rôle à jouer?
En effet, tu parles d'enfant valise. Alors là, pour le coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on était trimballés à droite, à gauche. Et en même temps, on avait toujours notre valise avec nous. Alors, il faut s'imaginer quand on part en vacances, on est très content de partir en vacances, mais on est très heureux de rentrer à la maison. Et cette sensation de rentrer à la maison, je ne l'ai pas ressentie pendant toute mon enfance parce que j'étais pas chez moi nulle part. Je ne me sentais pas chez moi. C'était ultra compliqué. On avait peur des dimanches soirs. On a toujours cette angoisse du dimanche soir. Je pense que c'est cette angoisse de la séparation. On a développé toutes les deux une peur phobique de l'abandon. Je pense clairement que ça vient de là. Alors pas que, clairement, mais ça vient de là également. Et puis j'ai beaucoup de mal, moi, à me sentir à ma place quelque part. J'ai du mal à me sentir à ma place dans un appartement, dans une maison. Je déménage très régulièrement et je pense que ça vient de là, de pas arriver à poser son ancre quelque part et à rester attachée à un endroit. Je me sens... peut-être encore trimballée à droite, à gauche et pas encore à ma place. Et puis, encore une fois, dans la construction de la jeune adulte qu'on a été, ça a été très compliqué parce qu'on avait cette double personnalité où d'un côté, ma mère nous laissait choisir nos vêtements, nous laissait sortir avec nos copines le mercredi après-midi au cinéma. Et alors que mon père, on ne choisissait pas nos vêtements, c'était des vêtements imposés et on ne sortait pas, on voyait personne, on travaillait beaucoup. Et voilà, donc c'était... Il y a eu cette sorte de double personnalité qui était très difficile à gérer en tant qu'enfant.
Ouais. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a une je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une banalisation du divorce qui empêche de comprendre l'impact psychologique que ça peut avoir, dans le sens où c'est tellement courant, hein, c'est presque un couple sur trois en province, entre guillemets, et un couple sur deux dans la capitale, il me semble. Donc c'est très courant. Est-ce que pour toi... une sorte de normalisation qui nuit, entre guillemets, à la potentielle prise en charge, tu vois, et à la protection des enfants?
Alors, j'aime pas trop dire banalisation parce que C'est pas banal de se séparer. En revanche, en effet, c'est courant. Encore une fois, je n'en veux pas à mes parents de s'être séparés. C'est la meilleure décision qu'ils aient prise. J'ai pas l'angoisse du divorce. Si un jour ça doit m'arriver, ça m'arrivera. Je pense en revanche que... Voilà, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui se sont séparées où ça s'est très bien passé, où les parents se parlent, où ils arrivent à avoir une communication pour avoir un peu les mêmes idées, en tout cas, à donner à l'enfant et que l'enfant s'y retrouve. Et je pense que c'est le plus important. Nous, on a été perdus pendant ce temps-là. Mais je pense pas que ça soit une banalisation. Mais en revanche, il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique énorme auprès de l'enfant, que ça soit des parents eux-mêmes qui peuvent très bien parler à l'enfant, lui dire, est-ce que tu as peur de quelque chose? Qu'est-ce qui t'angoisse? Est-ce que, voilà, papa, maman s'aiment plus, mais ils se sont aimés quand ils t'ont fait. On sera toujours là pour toi.
Oui,
des choses bêtes, mais des choses qui, je pense, en tant qu'enfant, quand on ne voit plus ses parents tous les jours ensemble, peut nous angoisser.
Ouais. Et en tant que jeune femme, bon, est-ce que tu t'imagines qu'on soit un foyer? Est-ce que tu as des appréhensions en tant que future épouse, que future mère?
Alors, bizarrement, pendant des années, je me suis répétée que je ferais un enfant toute seule. J'ai eu envie d'avoir un bébé depuis très très jeune, depuis mes 13-14 ans à peu près. Ça a été un besoin viscéral. Je pense sincèrement, avec du recul, que c'était pour essayer de réparer quelque chose, encore dans mon envie de protection, de surprotection en tout cas. J'ai 26 ans, j'ai toujours pas d'enfant, c'est un choix. Je me rends compte qu'il faut que je répare des choses au fond de moi pour avoir mon petit bout. Et ouais, pendant des années, je me suis dit que je ferais un enfant toute seule parce que c'était hors de question que mon enfant soit trimballé à droite à gauche. C'était hors de question qu'il ait un papa malveillant. Grâce à l'univers, j'ai rencontré un homme parfait qui serait un très bon père et je suis depuis 2 ans rassurée. Voilà, on n'a pas encore pour le projet tout de suite d'avoir un bébé. On a plein de choses à vivre avant. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus rassurée. Et maintenant aussi, je me dis que si un jour on se sépare, on se met à se séparer, avec mon vécu, j'essaierai de tout faire pour qu'ils le vivent bien, pour qu'ils ne ressentent pas la haine et le surégo, parce que concrètement, c'était un problème d'égo de la part de mon papa. Voilà, j'ai pas l'angoisse de la séparation. Je ferai tout, en tout cas, pour pas que ça se reproduise et qu'ils ne ressentent pas ce que j'ai ressenti, ce que je souhaite ça à personne. Ouais.
T'arrives à prendre du recul.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que t'as réussi, alors tu dis que tu n'en voulais pas, mais est-ce que t'as réussi à pardonner à tes parents?
Je pense que j'en ai voulu longtemps à mes parents et surtout à ma mère de nous laisser avec cet homme que je trouvais dangereux. Je comprends maintenant qu'elle n'avait pas le choix, déjà, et qu'elle a pensé faire au mieux pour nous. Elle a pensé qu'on avait besoin des deux parents. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec mon papa depuis plusieurs années maintenant, et je me sens enfin libre. C'est une personne qui n'a pas changé, qui ne changera jamais, qui n'aura jamais du recul sur ce qui s'est passé, qui ne se rendra pas compte de l'impact que ça a eu. Et à partir de ce moment-là, j'ai besoin de me reconstruire. J'en veux pas du tout à ma mère. Je comprends totalement ce qu'elle a vécu. Et je me souviens d'un moment où elle m'a dit « Vous savez, je regrette rien de ma vie. Je regrette qu'une seule chose, c'est de vous avoir fait avec ce papa-là. Je vous aurais eu, mais avec un autre papa. » Et même s'ils auraient divorcé, peut-être, il n'y aurait pas eu ce problème d'ego, ce problème de haine. Et pendant autant d'années, c'est horrible d'avoir 20 ans de haine.
Oui.
J'en veux absolument pas à ma mère et j'en veux pas à mon père. Voilà, j'en veux d'être comme il est, mais j'en veux pas de la séparation en elle-même. Voilà, je prends du recul et puis surtout, il faut pas en vouloir jusqu'à la fin de mes jours, je m'en sortirai pas.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonjour, merci beaucoup d'être là à notre micro d'Uni. Moi j'avais une petite question, est-ce que déjà vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a donné envie de vous orienter notamment vers le droit de la famille?
Ah alors, mon parcours, il faut que je remonte jusqu'à 25 ans en arrière. Non, moi je suis titulaire d'un bac scientifique, comme votre époux d'ailleurs,
oui,
me semble-t-il.
Tout à fait.
Sauf qu'en ce qui me concerne, mon orientation professionnelle, elle a été perturbée par le fait que j'avais une myopie. Je voulais devenir pilote, ça n'a pas été possible, donc je me suis dirigé vers des études de droit à la faculté d'Aix-en-Provence. J'ai suivi ma grande sœur, avec laquelle je suis associé à ce jour, et j'ai poursuivi des études avec un certain succès. Je me suis inscrit au barreau d'Avignon en 1998, de mémoire, associé avec ma sœur, et nous avons commencé très tôt avec Corinne à développer une clientèle de particuliers qui avaient des problématiques sociales dans le droit du travail, dans le droit de la famille et puis dans les conflits du quotidien. Donc, le droit de la famille a été, par le fait, une des activités dominantes du cabinet Cano et Cano Avignon, pour faire ma publicité.
Et dans le témoignage qu'on a reçu précédemment, on ressent un petit peu la difficulté pour l'enfant lors d'un divorce, puisque c'est le sujet de cet épisode, d'être un petit peu trimballé entre ses deux parents, parce que elle, c'est ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'en tant que professionnel, vous avez un rôle à jouer en tant qu'avocat, je veux dire je sais, vous ne pouvez pas parler au nom de tous les avocats, mais est-ce que c'est possible d'intervenir, du moins dans le cas d'un divorce, pour faciliter ou comme qualité peut-être de médiateur lors de séparation ?
L'avocat est là pour défendre, mais l'avocat, il est là aussi pour conseiller. Et notre responsabilité dans les conflits familiaux, elle est extrêmement importante. Elle l'est plus que dans beaucoup d'autres affaires de droit civil ou autres. Elle est très importante parce que lorsqu'il y a une famille constituée, avec des enfants, conseiller un parent dans quelque chose qui peut être conflictuel, sur une séparation, ça engage peut-être votre client, ça engage peut-être l'adversaire et ce qu'il va devenir, ça engage aussi des personnes, c'est-à-dire les enfants, que l'on ne voit, nous, jamais. Parce
ah oui.
que nous, lorsque nous sommes l'avocat d'un parent, nous n'avons pas vocation dans notre cabinet à entendre la voix de l'enfant. Est-ce que pour autant la voix de l'enfant est interdite dans un procès familial ? Fort heureusement, non.
Ça a toujours été ?
Alors, il se trouve que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle existe depuis 1989. L'enfant a le droit d'être entendu. Et dans le droit français, on a la possibilité d'entendre l'enfant. Ceci étant dit, on a la possibilité d'entendre l'enfant, mais qui est capable de discernement.
Oui, ça c'est estimé
donc,
à un âge, j'imagine.
Absolument, Léa. L'enfant qui a en règle générale moins de 10 ans, il est, si je puis dire, plus ou moins écarté de la procédure. Écarté, c'est peut-être un petit peu trop violent comme mot, mais on s'imagine quel peut être l'intérêt de l'enfant pour lui, avant qu'il ne soit capable de discernement. Il n'est capable de discernement, il est en capacité de s'exprimer qu'à partir d'un âge qui est environ l'âge de 10 ans. Attention, l'âge de 10 ans n'est pas inscrit dans les textes.
Oui.
C'est la capacité de discernement de l'enfant qui est importante.
Qui est jugée sur le moment
qui peut être jugée au cas par cas. Mais bien souvent, dans la majeure partie des juridictions françaises, on peut estimer que l'enfant capable de discernement, c'est souvent l'enfant qui a 10 ans. Ça peut évoluer en fonction des magistrats, en
ouais.
fonction des juridictions. Mais voilà, l'enfant qui n'est pas capable de discernement, on s'intéresse à sa situation en son nom et pour son compte, si je puis dire. Quand je dis on, c'est-à-dire les parents, les avocats, les magistrats, les enquêteurs sociaux, etc. L'enfant qui est capable de discernement, en revanche, lui, il a le droit à la parole.
D'accord. Et ça peut porter... Il peut avoir un poids dans...
Mais non seulement il peut avoir un poids, mais, et là je le dis pour ma profession, il y a des avocats de l'enfant qui sont réglés par l'État à l'aide juridictionnelle hein, pour défendre les intérêts propres de l'enfant. Car dans toute cette problématique familiale qui est celle de l'enfant valise, dans toute cette problématique, ce qu'il faut rappeler, c'est que toute décision qui est une décision qui doit porter sur les droits de l'enfant, de garde, de résidence, de contribution alimentaire, toutes font en sorte que le juge et tous les professionnels du droit et même les parents, c'est l'intérêt propre et supérieur de l'enfant qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas considérer l'enfant comme un objet que l'on peut déplacer à sa guise. Il faut considérer d'abord l'enfant dans ces problématiques-là comme un sujet propre qui a un intérêt supérieur qu'il faut sauvegarder. Parce qu'il y a des situations où tout se passe bien. On peut estimer qu'elles sont très nombreuses et j'espère que c'est la majorité. Moi, je ne vois que les problèmes dans mon cabinet.
Bien sûr.
Je ne vois pas les solutions, j'en ai, mais je ne vois pas les situations où tout cela se passe bien. Mais il y a aussi des situations où cela se passe très mal, avec des parents qui considèrent des fois que l'enfant est un objet de conflit, que l'enfant est quelqu'un qui peut être une pièce sur un échiquier. C'est là où, effectivement, on peut avoir des problématiques.
Je ne sais pas tellement comment tourner ma question, parce que je ne veux pas mettre en porte-à-faux qui que ce soit. ni vous faire parler mal de vos confrères, mais est-ce que l'enfant peut être utilisé parfois comme... Est-ce qu'il peut être utilisé par certains avocats comme objet justement de discussion, de... Comment dire ça ? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être mis à l'avantage ou est-ce qu'on peut se servir d'un...
L'enfant... Alors, je vois quel sujet vous voulez aborder. Dans les séparations conflictuelles, ouais. Entre parents, vous avez ce que l'on appelle le conflit de conjugalité. C'est-à-dire, on se sépare, ça se passe mal, il y a de la haine après l'amour... Il y a des intérêts patrimoniaux derrière, il peut y avoir des intérêts financiers, il peut y avoir quelque chose et un conflit conjugal qui peut être très lourd et qui peut durer des années. S'il y a au milieu de cet échiquier parental des enfants, il est possible que certains parents mixent ce conflit de conjugalité, créent consciemment des conflits de parentalité.
Oui, qui mixe les deux, d'accord.
Ce que l'on peut avoir dans ce type de conflit lourd, c'est la situation où des parents mixent les conflits de conjugalité avec et créent des conflits artificiels de parentalité. Le plus, pas médiatique, mais celui dont on parle le plus depuis des années et des années, c'est ce fameux serpent de mer familial qui est le syndrome d'aliénation parentale. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Légèrement.
Alors, il est discuté, ce fameux syndrome, sur ce qui concerne son aspect médical. Moi, je ne parle pas de syndrome d'aliénation parentale. Je parle d'enfant qui peut être victime d'un conflit parental. D'enfant qui peut effectivement voir un de ses deux parents dénigrer l'autre.
Oui.
Ah, tu vois, maman, tu vois ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle te dit ça ? Ah, papa, pourquoi il t'a pas mené au cinéma dimanche matin ? Je lui en avais parlé. Ah, bah, tu as vu comme t'es habillé ? Oh là là ! Le fait que, et alors que l'enfant, lui, il est loyal quand il est tout petit. Hein, je ne parle pas de la crise d'ado. Hein, je parle du pré-ado et de l'enfant en bas âge. Il est loyal. Il aime ses deux parents. Par nature, par principe, il aime ses deux parents. On le pousse des fois à des conflits de loyauté, oui. De l'un contre l'autre.
À faire un choix qu'il n'aurait pas.
On le pousse des fois à effectivement choisir entre les deux. C'est là où l'enfant il vit des drames. C'est là où l'enfant, on voit que à travers certains dossiers, il peut être victime d'un conflit. Vous savez, on parle depuis quelques années de la guerre qui est une guerre clinique. Il y a toujours des dommages collatéraux. Et en matière familiale, le dommage collatéral, malheureusement, c'est un être vivant et c'est souvent un enfant ou des enfants. Et ça, ce sont des situations dramatiques. Elles concernent les parents, elles concernent les avocats qui conseillent les parents, elles concernent les avocats de l'enfant lorsque l'enfant est en capacité de s'exprimer, et elles concernent aussi, à terme, lorsque le dossier est contentieux et qu'il est judiciaire, elles concernent les magistrats. Vous avez des magistrats, notamment un, qu'il faut nommer. Vous retrouverez ces articles sur Internet. C'est Marc Juston, J-U-S-T-O-N, qui était un magistrat avant d'être médiateur maintenant, qui était un magistrat qui tenait une chambre familiale et qui a été très tôt, et avant que cela ne soit à la mode, très tôt orienté vers les médiations familiales. Ça rejoint la discussion que nous avions tout à l'heure, avocat-médiateur. Non, l'avocat n'est pas un médiateur. L'avocat défend les clients. Mais en revanche, l'avocat y est obligé. Il doit, surtout en matière familiale, privilégier la médiation. Il y a des espaces de rencontre qui ne sont pas des espaces de rencontre judiciaires, qui sont déjudiciarisés, avec face à soi des médiateurs qui peuvent essayer de régler des situations problématiques lourdes qui mettent en jeu justement le devenir des enfants, la stabilité des enfants. Et c'est ça qu'il faut essayer de privilégier. Alors je sais très bien que là, je parle en théorie. Mais derrière cet angélisme que l'on pourrait me reprocher, il y a des réalités humaines qui sont telles qu'il y a des enfants qui, quelques années après, vous disent et vous révèlent qu'ils en ont souffert de ces situations-là. Moi, ce que je veux éviter lorsque je défends un père, une mère, un parent, c'est éviter que les enfants, tout de même, en fassent les frais d'un dossier, parce que derrière un dossier, il y a des personnes.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous trouvez qu'au fil des années, la parole des enfants, ou en tout cas l'importance de les protéger, est de plus en plus écoutée ? Est-ce que vous trouvez que l'évolution est positive dans ce sens ?
Toute l'institution judiciaire, mais aussi les médiateurs, ceux qui sont en charge des intérêts de l'enfant, ont fini par intégrer cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant qui a 30 ans, plus de 30 ans, mais cela a été inscrit dans les textes, cela a été inscrit dans la pratique. L'enfant, je le disais tout à l'heure, ce n'est plus qu'un simple objet. Dans le concept enfant-valise, on mixe un nom d'objet. On fait en sorte que cet enfant valise devienne un enfant sujet de droit, soit un enfant qui soit respecté dans sa propre autonomie. Hein. Donc nous sommes dans cette étape-là. Certains diront « Ah là là, mais on en devient tellement proche des intérêts de l'enfant que l'enfant est maintenant un enfant roi, on ne peut plus rien lui dire. » Non. Là, nous parlons des situations où l'enfant était scotomisé, comme diraient les psychologues, était peut-être même nié ou était mis à l'écart des conflits, où l'enfant ne pouvait pas être véritablement entendu, reçu par un juge, ne pouvait pas avoir un avocat. Non, maintenant, nous sommes dans une situation où l'enfant a toute une palette de droits. Entre les années 90 et ce qu'a pu vivre les personnes que vous avez pu entendre, et maintenant les années 2000-2010, etc., on a tout un changement d'appréhension relativement aux droits de l'enfant. C'est une bonne chose parce que la loi sur la résidence alternée, elle est venue en 2002, elle a évolué. On a maintenant effectivement intérêt à voir l'enfant s'exprimer lorsqu'il est capable de discernement.
Et pour des parents qui seraient en train de nous écouter, peut-être en instance de divorce ou en tout cas en réflexion d'une possible séparation, quels conseils vous pourriez donner pour épargner et protéger les enfants, mais en termes de démarche, comment peut-être s'entourer intelligemment ?
S'entourer intelligemment, ce n'est pas forcément ne voir que l'avocat et de suite se dire « j'ai un bon dossier, maître, nous allons partir au procès et nous avons de bonnes chances de gagner ». Cette logique-là, je ne l'ai pas et je ne pense pas que beaucoup d'avocats l'aient. Aujourd'hui, lorsqu'on a des intérêts familiaux sur lesquels on doit assurer naturellement du conseil, naturellement de la défense, préserver les intérêts des clients, on doit aussi penser justement au tiers à la procédure, on doit penser notamment aux enfants, puisque le sujet aujourd'hui, c'est les enfants. Et dans cet état d'esprit-là, il ne faut pas hésiter à conseiller à ces personnes-là de rencontrer des tiers que sont les médiateurs, et notamment les médiateurs familiaux. Le médiateur familial, qui c'est ? C'est un professionnel déjà, qui a reçu une formation spécifique. Ce n'est pas un sorcier, un médiateur, c'est une personne qui est formée spécifiquement pour, dans un lieu qui n'est ni un palais de justice, ni un cabinet d'avocat, ni le domicile conjugal, si je puis dire, au cœur de la fournaise, non, dans un lieu apaisé, écouter la parole de l'un, le laisser s'exprimer, écouter la parole de l'autre, lui laisser exprimer ses propositions et conseiller à ces deux parties-là qui se voient comme des adversaires devant un juge, d'essayer de leur faire comprendre que peut-être la meilleure des solutions, c'est qu'ils imaginent, le mot est extrêmement important, trouver des solutions eux-mêmes à leurs problématiques pour la dépasser. Alors, j'entends bien, ce n'est pas un discours qui est judiciaire ou familial ou parental, qui a été celle d'être témoin, victime, acteur de conflits judiciaires qui ont duré des années, avec des résultats qui sont souvent aléatoires. Et se dire que même s'il n'y avait qu'une chance, petite chance, d'essayer d'être acteur de son propre conflit, d'être soi-même acteur de solutions qui ne sont pas les solutions que prendrait forcément un juge, qui permettrait de sortir par le haut de ces difficultés-là. C'est la plus grande des victoires que l'on pourrait espérer pour des parents, notamment au regard de leurs enfants. Parce que les enfants, eux, ils sont des personnes qui sont malheureusement déjà victimes d'une séparation. Trouvez-moi un enfant qui est satisfait de voir ses parents se séparaient. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont ensuite, des fois effectivement, victimes des droits conférés à l'un, des résidences confiées à l'autre ou aux deux. Et ces enfants-là, ils sont eux-mêmes porteurs de troubles, de difficultés, qui vont peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ressortir. Et être un parent avec 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus, et se retrouver avec un enfant qui vous sort la figure parce qu'il a réussi à expurger, si je puis dire, tout cela, toute cette violence-là qu'il a pu subir, et vous sortir la figure qu'il en a bavé lorsqu'il était jeune de ce conflit parental, est-ce que c'est ce que l'on peut souhaiter à des parents aujourd'hui ? Je ne pense pas non plus. Donc je crois que il y a effectivement les intérêts qui sont les intérêts financiers, il y a de la fierté, il y a plein de choses, plein de conflits intérieurs que chaque parent peut vivre. Mais il faut qu'il le dépasse. En tout cas, c'est le conseil que je peux apporter. Essayez de dépasser ces conflits-là. Pensez, lorsque vous en avez, aux intérêts de vos propres enfants. Comment vous allez les regarder dans les yeux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Comment ils vont eux-mêmes vous percevoir lorsque eux-mêmes deviendront adultes ? Quelle histoire vous voulez qu'il prolonge à travers vous. Je pense que c'est ça qui est important. C'est en appeler à la responsabilité des parents, c'est en appeler aussi à des démarches qui ne sont pas les démarches habituelles, avocat, juge, procès, appel, incident, et Dieu sait que nous en faisons. Mais il y a aussi des solutions qui permettent d'apaiser. Tenter au moins la médiation, c'est une chose, et notamment la médiation familiale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est entré dans la loi. Depuis le 1er janvier 2020, avant c'était conseillé, mais depuis le 1er janvier 2020, c'est devenu obligatoire. Donc on ne peut pas y couper. On va être nous-mêmes obligés de conseiller systématiquement à toute personne qui viendra nous voir pour un conflit familial, de lui dire « Madame, monsieur, c'est pas que je vous conseille, c'est que vous êtes obligé à l'issue, en toute hypothèse, de tenter une issue par la voie de la médiation. » Donc voilà, tout ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de trouver un bon médiateur et d'essayer enfin d'un peu apaiser ces conflits qui sont des conflits affectifs, psychologiques, des fois financiers, mais de bien les séparer des intérêts propres de l'enfant.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.